Alors, j'aimerais prendre avec vous un verset dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4. En fait, le verset, c'est le verset 16, mais on va lire tout ce qui précède, parce que tout est mêlé, tout est lié, tout est ensemble. Et pour bien le comprendre, il faut commencer un peu plus tôt. Donc on va lire verset 11, chapitre 4, verset 11, Éphésiens, jusqu'au verset 16. Il est écrit ici, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et donc là c'est le verset sur lequel j'aimerais qu'on se penche, c'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors, c'est pas pour rien que l'apôtre Pierre a dit de l'apôtre Paul, il y a des choses difficiles à comprendre dans ce que écrit l'apôtre Paul. Et là, eh bien, ce verset, je trouve, il l'illustre bien. On n'est pas habitué à ces constructions de phrases hein, qui sont souvent à rallonge. Et donc, le sujet de ce verset, c'est l'Église, le corps de Christ, l'Église. Paul nous explique comment fonctionne le corps de Christ et on pourrait peut-être le comparer. Vous savez, aujourd'hui, on a les rayons X, les radios, les scanners hein, et vous voyez votre corps transparent hein, finalement grâce à ces rayons. Et bien là, c'est un petit peu une radiographie du corps de Christ. Comment fonctionne le corps de Christ à l'intérieur? Il est en train de nous expliquer ce qui se passe. Alors, c'est difficile de rester collé au verset mot à mot en grec, parce que sinon ça devient incompréhensible. Et les traducteurs, dont Louis II, donc la traduction que vous venez de lire, a tâché plutôt, il a peut-être un peu bougé un peu les mots dans la phrase, mais à le rendre cohérent et à nous l'expliquer. Alors, que veut dire ce verset? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous expliquer? La première chose qu'il nous explique, c'est que Christ est le chef du corps, de son corps, le chef, il est en haut. Paul dit, c'est de lui, donc il parle de Jésus-Christ. Christ est le chef du corps, et c'est ce qu'il dit juste avant, au verset 15, puisqu'il dit, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, et c'est de lui, donc Christ, le chef. Le chef ici, en grec, c'est le mot « képhalé ». Ou céphalée, hein, un encéphalogramme, en fait c'est la tête. Hein. Christ est la tête. Hein. Il est celui qui dirige, qui conduit, qui ordonne, qui donne des ordres. Donc c'est de la tête que tout part. Hein. Couper la tête, c'est terminé. Eh bien Christ est la tête du corps qui est l'Église. Deuxièmement, on peut comprendre que ce corps est bien coordonné, il est bien cohérent. Parce qu'il forme un solide assemblage. Quand vous regardez le corps de Christ, le corps humain, eh bien vous voyez que c'est un solide assemblage. Hein. Tout est aussi lié. Un jour, j'écoutais un journaliste qui était en train de parler de l'Airbus A340 et il disait, c'est des kilomètres de câblage et de fibres. C'est vrai, dans un Airbus. Hein. Mais vous savez, dans un corps, ben c'est pareil. Quoi, hein. C'est des kilomètres aussi, on pourrait dire, entre guillemets, de câblage. Parce que à l'intérieur du corps humain, eh bien, tout est tissé, lié ensemble, les muscles, les nerfs, les tendons, les ligaments, tout s'enchevêtre parfaitement pour que ça fonctionne parfaitement. Et le corps de Christ, l'Église, eh bien c'est pareil. C'est pas un enchevêtrement de tissus, de fibres et de cellules, mais c'est plein de personnes qui se coordonnent les uns avec les autres, toujours conduits par la tête, Christ. Et ça forme un solide assemblage. On est liés et dépendants les uns des autres. Parfois on est dans la réunion de prière et voilà, on prie pour plein de choses et on pense à quelque chose, on vient de prier, on se dit « Oh mince, j'ai oublié de prier pour un tel ». Et puis hop, quelqu'un y pense. Pourtant, ce n'était pas forcément un sujet qu'on avait nommé. Mais voilà, le Seigneur, eh bien, il conduit les choses, il fait en sorte que tout est bien coordonné et que tout fonctionne parfaitement. Ensuite, troisièmement, on voit dans ce verset 16 qu'il nous est parlé des liens de l'assistance de Christ. Les liens, littéralement, c'est les ligaments. Les ligaments de l'assistance de Christ. Et c'est ce qui va retenir les membres les uns avec les autres. On est liés, hein. Christ nous lie les uns aux autres. On est attaché. Alors, c'est sûr qu'il y a des personnes qui travaillent à préserver, à garder, à conserver, à développer l'unité. On va dire les pasteurs, les docteurs, les responsables. Mais pas seulement. En fait, chacun pour sa part fait que nous sommes liés et attachés les uns aux autres. Et le corps est harmonieux et il forme un tout. C'est parce que dans le corps humain, tel muscle tient telle partie du corps que cette autre partie peut être efficace et puis il n'y a pas un affaissement de tel organe. Tout est lié en fait. Eh bien, c'est exactement la même chose dans l'Église de Jésus-Christ. C'est identique dans le corps spirituel de Jésus-Christ. C'est parce qu'on est un tout et que, eh bien, voilà, on prend soin, on s'attache, on porte, on soutient l'un et l'autre. C'est vraiment frappant de voir cela. Quatrièmement, c'est comme cela que le corps de Christ peut s'accroître, peut grandir. Il dit « selon la force qui convient à chacune de ses parties ». Et chaque membre, chaque organe prend sa place et fait ce que la tête lui demande, et c'est pour le bien du corps tout entier, et c'est l'édification du corps de Christ. Voilà, selon la force de chacun, certains sont plus forts, d'autres un peu plus faibles, mais il y a tout un soutien, une croissance qui est en train de s'opérer, le corps se développe et grandit. Et puis pour terminer, cinquièmement, cette édification produite donc par cette interaction, cette harmonie, ce travail du corps tout entier, il dit « il n'est possible que dans l'amour, qu'avec l'amour, c'est l'amour qui fait tout, sans l'amour, il n'y a rien ». 1 Corinthiens 13 le dit bien. Même si on ne peut pas parler de l'amour de notre main pour notre pied, en réalité, quand le pied ne va pas bien, la main elle vient l'aider rapidement parce que ça ne peut pas fonctionner. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. On va prendre soin des uns des autres et on va garder, préserver, protéger, prier, soutenir le corps tout ensemble. Et c'est ça qui fait que c'est bien coordonné et ça fait un solide assemblage croissant dans la grâce de Dieu par l'amour. Mais j'aimerais qu'on puisse voir concrètement où se situe cette interaction, ces liens qui nous unissent et font que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Ce solide assemblage, il peut se deviner grâce à une expression du Nouveau Testament. Alors, quelle est cette expression? Elle est reprise de diverses manières, mais c'est l'expression « les uns les autres ». Ou bien « les uns envers les autres ». Ou bien les uns avec les autres, ou encore les uns aux autres. Donc il y a ces quatre expressions qui reviennent dans tout le Nouveau Testament et qui témoignent de cette interaction que nous avons réciproquement. Et je dirais même c'est la survie du corps, cette expression, les uns les autres. C'est la survie du corps. Sans ça, le corps ne peut pas fonctionner. Alors d'abord un premier verset, on va voir beaucoup de versets, mais petit à petit les uns après les autres. Romains 16, verset 16. Merci à Jean-Daniel. Romains 16, verset 16. Il dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». toutes les églises de Christ vous saluent. Donc c'est la première expression qu'on trouve dans le Nouveau Testament, on la trouve 4 fois. Et on n'est pas simplement des connaissances, des collègues de travail, mais on fait partie d'une même famille, d'un même corps. C'est pourquoi Dieu nous pousse à nous saluer les uns les autres par un saint baiser, ou on pourrait dire un baiser d'affection, par un baiser d'affection. C'est beau, hein ? On témoigne, de notre affection, on s'embrasse, hein. Dès les premiers instants où on se rencontre, on témoigne de son affection. On ne va pas embrasser l'inconnu, quelqu'un qui passe dans la rue, bonjour. Non, on ne le connaît pas. Mais quelqu'un qu'on connaît mal, on ne l'embrasse pas, on lui serre la main. Hein. Et puis après, il y a des liens qui se tissent, puis il y a de l'affection et on s'embrasse. Alors, c'est sûr, ce n'est pas dans toutes les cultures. Il y a des cultures où ils ne s'embrassent pas. Hein. Nous, on a la chance, en France, on s'embrasse. On peut faire un saint baiser. Romains 15, verset 7. Il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et là, le terme grec encore pour « accueillez-vous », ça signifie « prendre comme compagnon ». C'est fort hein, comme expression. Ça signifie prendre ou recevoir dans sa maison avec l'idée de bonté. Ou bien recevoir dans le sens de permettre à quelqu'un l'accès de son cœur. Oh, c'est énorme, hein ? C'est très fort. Ou bien encore prendre en amitié. Alors accueillez-vous les uns les autres, ça veut dire beaucoup, vraiment beaucoup. Christ nous a accueillis, hein ? Lui, il nous a ouvert son cœur, hein. Il s'est sacrifié pour nous et il nous accueille. On peut dire qu'il nous a accueillis dans son intimité avec bonté. Il a fait de nous ses amis. Il le dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. Pas copain, hein, ami. C'est très fort. Hein. Et bien de la même manière, Dieu nous invite à nous accueillir, à être ouverts hein, aux autres, à nous prendre en amitié. 1 Pierre 4, verset 9. Ailleurs, nous lisons donc 1 Pierre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Et c'est vrai que le cœur ouvert, c'est aussi, il se voit à l'ouverture de sa porte. Quand on ouvre sa porte, eh bien, finalement, on introduit un peu dans son intimité. Hein. Son chez-soi, c'est son intimité. Ouvrir sa porte, c'est donc ouvrir un peu de son intimité. C'est finalement ouvrir un peu de son cœur. Et l'affection fraternelle, si elle est sincère, elle mène sincèrement à ouvrir la porte hein, de sa maison. Parce qu'il y a un désir de faire du bien à ses frères et sœurs. On doit exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Pourquoi ils disent sans murmure ? Alors probablement parce que l'hospitalité, elle n'est pas naturelle chez tous. Elle n'est pas naturelle. Parfois on est très refermé sur soi et pas très ouvert et accueillant. Et quand vous vous dites, mais malgré la culture de l'époque, hein, parce que si vous vous souvenez de la culture de l'époque, c'était beaucoup plus ouvert et beaucoup plus accueillant que ça ne peut l'être aujourd'hui. Et il leur dit, eh bien voilà, peut-être c'était trop ouvert, je ne sais pas l'idée, hein, puisque les portes étaient grandes ouvertes. Et il y en a qui se disaient, oh mince, hein, j'aimerais bien avoir mon petit chez moi tranquille hein, un peu. Mais voilà, il y avait l'un qui rentrait, l'autre qui rentrait. Voilà, mais il dit, sans murmure. Alors nous, qu'en est-il aujourd'hui ? Dans notre société beaucoup plus fermée, individualiste, verrouillée, fermée, avec des portes blindées, la tendance, ça peut être de ne pas accueillir du tout. Voilà, chacun chez soi, hop, au moins il n'y a pas de murmure. Ça règle le problème ? Non, il dit accueillez-vous avec amour, sans murmure. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Travaillez-y. Ensuite, quand on pense au murmure, c'est aussi le reflet d'un manque d'amour. Hein? Si on murmure, c'est qu'on n'aime pas. Colossiens 3:13. Il dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et là, il y a un aspect important du corps du Seigneur. Hein. Pour que le corps fonctionne bien, il faut que les membres s'acceptent mutuellement. Il faut qu'ils se supportent. Alors, je pense à notre corps et notre corps physique. Certains le savent parce qu'ils le vivent tous les jours. Hein. Un membre est parfois douloureux. Un membre nous fait souffrir. Moi, j'ai le nerf sciatique qui a commencé à se réveiller là, en début de la semaine dernière. Là, où de temps en temps, je tendais la jambe à grands coups, je la pliais. Voilà, des fois, voilà, il y a un membre, quelque chose qui nous fait souffrir. Il faut qu'on le supporte. Il faut qu'on lui pardonne. Hein. Évidemment, on lui pardonne. En fait, on n'a pas trop le choix. Hein? Mais voilà, on pardonne le membre malade, douloureux. Ben, c'est la même chose dans le corps de Christ. C'est la même chose. Malheureusement, parfois, un membre fait souffrir les autres. Il est raide. Il est égoïste. Il est centré sur lui-même. Et ça engendre de la souffrance. Forcément, hein? Dès qu'on est en contact... Ça engendre de la souffrance. Une parole dure, un geste qui manque d'amour, une attitude charnelle qui nous blesse. Et Dieu nous dit, il faut se supporter. Supportez-vous les uns les autres. Et pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. Ailleurs, dans l'évangile de Marc, on lit, soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix. Et c'est la paix que Dieu veut qu'on cherche dans le corps de Christ. Chacun est responsable de vouloir et d'orienter sa vie vers la paix, vers la recherche de la paix. Il y a des choses qui provoquent la guerre, d'autres qui provoquent la paix ou qui l'engendrent. Chacun est responsable. Dieu dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépende de vous. Mais tous les hommes, en fait, il veut dire mais tous les incroyants, le monde, hein. À combien plus forte raison dans le corps de Jésus-Christ ? Autant que cela dépende de vous, mais soyez en paix. Cherchez la paix. Gardez la paix, puisqu'elle nous est accordée en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire, ou que nous ne devons plus faire les uns envers les autres, ou les uns vis-à-vis des autres. Un autre verset, Romains 14, verset 13. Il dit, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Et le jugement, ben c'est le destructeur de la paix. Ça vient détruire la paix. Ça chasse la paix du corps de Christ. Et personne n'est exempt d'une attitude de jugement. Personne. C'est un travers dans lequel nous pouvons tous tomber et nous y tombons tous. Tous. Sans exception. Et j'aimerais relever quelque chose au sujet de ce verset. Il n'est pas dit qu'un tel doit arrêter de juger cet autre. C'est pas ce qui est dit dans le verset. Parce que c'est souvent comme ça qu'on le comprend. En fait, quand on lit le verset, on pense, ah oui, ben ouais. Franchement, lui, hein, il ferait bien d'arrêter de juger. Hein, parce que, commence à bien faire. Hein, commence à bien faire. Qu'il en prenne de la graine, tiens. J'espère qu'il écoute. Hein. Mais c'est pas ce que dit le verset. Le verset dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Les uns les autres. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire il faut plus se juger réciproquement. Et là, on voit que le jugement, ben, il vient des deux parties, en fait. Hein. C'est des deux côtés. Et malheureusement, les uns envers les autres et vice-versa, eh bien, on se juge. Ça veut dire tout le monde juge tout le monde. C'est une réalité. Hein. Des fois, c'est pas... comment dire, ça se voit pas, hein. Ça peut être une petite pensée, hop, c'est furtif, hein. Mais finalement. Et les membres du corps peuvent avoir parfois tendance à se juger un peu dans tous les sens. Hein. Pas pour les mêmes choses, bien sûr, mais il y a un jugement réciproque. Je juge un tel me juge, et puis... Et souvent, parce que j'ai jugé, je suis moi-même après jugé. Hein? Vous connaissez ça, hein? Si je juge quelqu'un, pouf, je me retrouve à faire la même chose. Et là, je me dis, oh meuf, comment j'ai pu penser ça de mon frère alors que moi, je suis en train de le faire? Et c'est ça. On juge et on se fait juger. Et Dieu dit, stop, arrêtez. Arrêtez de vous juger les uns les autres et vice-versa. Ne vous jugez plus les uns les autres. Passez par-dessus. Ne faites pas cas. Aimez, pardonnez et jugez-vous vous-même. Ah là, la parole le dit. Hein? Jugez-vous vous-même, occupez-vous de vous. Une autre chose qu'il ne faut plus faire, on le lit dans Galates 5, verset 26. Il dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et si Paul met en garde les Galates sur cela, contre cela, c'est que, eh bien, malheureusement, c'était aussi dans le corps de Christ, hein, un désir de vaine gloire, en fait, voilà. Un esprit de jalousie. Voilà, on jalouse un tel ou un tel. On lit aussi ailleurs dans Galates, je vous le lis, « Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Hein? » On retrouve l'expression et le danger ici. Hein? Si on a une mauvaise attitude des uns envers les autres, alors c'est la destruction du corps de Jésus-Christ. Quand on est divisé contre soi-même, on ne peut pas subsister. Dit Jésus dans les évangiles. C'est comme les maladies auto-immunes, vous savez, c'est où finalement, eh bien, le système immunitaire commence à s'attaquer à lui-même et on s'auto-détruit. Eh bien, c'est pareil, ça peut être pareil dans le corps de Jésus-Christ. Si dans une église, l'attitude des uns envers les autres n'est pas pour le bien, eh bien, elle va basculer pour le mal. Et elle va finir par détruire. Et on va se détruire les uns les autres. Donc, il faut toujours prendre conscience, l'ennemi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma sœur. L'ennemi, il est là-haut. Hein? Il est dans les lieux célestes. Hein? Et lui, il veut effectivement qu'on se querelle, qu'on se divise, qu'on se juge, qu'on... Voilà. Mais Seigneur, préserve-nous et donne-moi d'aimer et de passer par-dessus. C'est pour ça qu'il est dit en Jacques 5, verset 16. Jacques 5 et verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et au lieu d'avoir une attitude qui est dur et qui engendre la destruction, Dieu nous pousse au contraire à avoir une attitude d'humilité et de repentance. Plutôt que de chercher le péché de notre frère, Dieu nous invite à regarder nos propres péchés et puis voir si nous avons offensé notre frère. C'est ça qui est important. Quand il dit « confessez donc vos péchés les uns aux autres », ça ne veut pas dire qu'il faut aller voir votre frère et dire « tu sais, hier j'ai fait ça et je suis tombé là ». Non, dites-le à Dieu et demandez pardon à Dieu et Dieu vous lavera par son sang. Par contre, si vous avez blessé, fait du mal ou voilà, vous avez manqué de grâce, eh bien dites-lui, j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Et on confesse et on demande pardon aussi à son frère. C'est une attitude complètement différente qui construit au lieu de détruire. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et là, voilà, on prend soin, on use de bonté les uns envers les autres, hein, pour que tout le corps, eh bien, soit en bonne santé. Et c'est sûr que, pour reprendre cette image des mains qui prennent soin des pieds, dès que vous avez un caillou dans la chaussure, ben, hop, vite, vous l'enlevez. Hein. Ça s'appelle un scrupulus. Vous savez, petit caillou dans la chaussure, c'était dans la sandale autrefois, on appelait ça un scrupulus. Quand j'ai un scrupule, hein, ça dérange, ben c'est pareil. Mais quand on a un petit caillou, vite on l'enlève, une écharde, hop, on l'enlève. Et bien de la même manière, nous, on doit être attentionné. Dès qu'il y a voilà, quelque chose qui ne va pas, on essaye de le régler. On veut la paix, on veut, voilà, on veut que tout le corps soit bien. Dieu veut qu'on soit plein de bonté, compatissant. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit « Consolez-vous les uns les autres ». Voilà, on voit de la peine, on voit de la tristesse, on compatit, on porte avec, on apporte un soutien moral. Et c'est cette bonne attitude des uns envers les autres qui fait que le corps de Christ est un corps fort, solide, un solide assemblage, bien coordonné, cohérent. Il n'y a pas de conflit intérieur entre les nerfs, les muscles, les organes, mais plutôt un soutien, une aide réciproque. Ailleurs, on lit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres ». Il y a de l'humilité. Ou encore « Attendez-vous les uns les autres ». Attendez-vous les uns les autres. Intéressant, hein, c'est pour la scène. Attendez-vous les uns les autres. On fait tout ensemble. Usez de prévenance réciproque. Et c'est les uns les autres. Hein. De prévenance. Oh, si je fais ça, eh bien cette personne, elle va mal le prendre. Ou voilà, je vais faire attention. Je mets des gants et je prends soin des autres. Veillons les uns sur les autres. Pas surveillons. Veillons. Veillons les uns sur les autres. Et à chaque fois, c'est quelque chose de positif. Quelque chose de positif hein, où il nous est demandé d'apporter, de donner, d'offrir à nos frères et sœurs. Et on a vu au commencement de ce message, le but du corps de Christ, c'est de s'édifier lui-même dans l'amour. Colossiens 3:16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et on prend soin de son corps, hein, on prend sans cesse soin de son corps. Les femmes vont prendre soin de mettre de la crème pour leur visage, pour adoucir la peau. Certains vont bien faire attention à leur alimentation, il faut que ce soit pour avoir un corps qui fonctionne bien. D'autres vont faire du sport pour entretenir le cœur. D'autres vont soigner les chaussures pour le dos, etc. On prend soin de notre corps. On a un vrai souci de notre corps. Ben, Dieu dit, faites la même chose vis-à-vis du corps de Christ. Prenez soin. Ayez le même souci de garder en bonne santé spirituelle. Bonne santé spirituelle. En s'instruisant, en s'exhortant, voilà, on apporte des choses qui sont spirituelles, les cantiques, les partages. Et de là, l'importance, hein, ici dans l'Église, on partage. Vous avez un moment de partage. Vous pouvez partager quelque chose, hein. On va partager ce que nous vivons dans notre relation avec Christ. On ne va pas tout partager. Hein. Le but, ce n'est pas de faire une énumération de ce qu'on a fait toute la semaine, mais c'est d'apporter quelque chose qui édifie parce qu'on a vu le Seigneur. On l'a vu dans notre vie. Eh bien, ça nous fait du bien le partager et ça fait du bien aux autres de l'entendre. On a reçu un verset. On a souligné un verset qui nous a fait du bien. Mais partagez-le. Exhortez-vous les uns les autres. Hein. Édifiez-vous les uns les autres. Ce n'est pas juste du pupitre, c'est aussi réciproquement, ensemble, on a besoin de s'édifier les uns les autres. On va partager ses progrès, ses chutes, parfois, hein, ça arrive aussi, ce qu'on a compris du Seigneur, tout ça au travers des écritures, des cantiques, des louanges. Écoutez encore ce que dit la parole de Dieu. Alors peut-être je vais vous les lire trois versets à la suite. En 1 Thessaloniciens 5:11, il dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Vous le faites. Est-ce que vous le faites? On doit le faire. On doit s'exhorter, s'édifier, partager ce qui vient du Seigneur. Ailleurs dans Hébreux, il dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, tant qu'on est vivant, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et puis encore, il dit, peut-être on peut prendre celui-là, Romains 15, verset 14. Romains 15, verset 14, il dit, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, est capable de vous exhorter les uns les autres. » Et on peut apporter quelque chose à nos frères et sœurs. Hein. On a même le devoir de le faire, de nous exhorter par le partage de nos expériences, de nos prières, de nos lectures, ce que Dieu fait dans notre vie. Et il dit, si nous sommes bien disposés, parce que c'est ça, des fois on pourrait, mais on ne veut pas. Voilà. Là tout s'arrête. Hein. Dieu ne force pas les choses. Mais là il dit, voilà, vous êtes plein de bonnes dispositions. Et on devrait prier, Seigneur, aide-moi à arriver plein de bonnes dispositions cultes. Prêt à prier, prêt à chanter, prêt à proposer un cantique, prêt à partager ce que le Seigneur m'a dit. Plein de bonnes dispositions. Et puis ici aussi on a une maturité chrétienne, il y a quelque chose, là pour eux il dit rempli de toute connaissance. Alors ce qui est intéressant, c'est que avant tout à l'heure il disait que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Qu'est-ce que c'est fort ça, que la parole demeure en vous dans toute sa richesse. Et vous savez, si on lit durant la semaine, eh bien, voilà, on se remplit de connaissances. On se nourrit l'âme, en fait. Hein. Et la parole, eh bien, elle est en nous, dans toute sa richesse. Et le dimanche matin, hop, ça déborde. Ah oui, Seigneur, il m'a fait du bien, là. Hop, je le partage. Alors, eh bien, il dit, nous sommes capables de nous exhorter, de nous encourager les uns les autres. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Enfin, comme on vient de le voir, il y a beaucoup de choses que nous devons faire les uns envers les autres. Mais ce qui couvre et résume toutes ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Et s'il y a quelques mentions de la nécessité de s'exhorter les uns les autres, hein, on voit, on en a lu plusieurs, comme le fait de se saluer les uns les autres par un saint baiser, là où on trouve le plus de mentions de cette expression, c'est en ce qui concerne l'amour. C'est là où ça ressort abondamment. 15 fois, il nous est parlé de nous aimer les uns les autres. Voilà, c'est tout en haut. Jean 13, 34 à 35. Il dit, Jean 13, versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 15, verset 12, juste après, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 17, même chapitre. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et l'Église de Christ est quelque chose qui est en train de s'édifier, de se construire comme une maison que l'on bâtit. C'est pareil. Mais la différence avec un quelconque bâtiment, les ouvriers, vous savez, s'ils ne s'aiment pas, ce n'est pas grave, ils vont quand même construire. Hein. Mais dans l'Église, corps de Christ, si on ne s'aime pas, pas de construction. Il n'y a pas d'édification. Ça ne peut pas grandir, hein. Ça ne peut pas mûrir. Tout doit s'édifier dans l'amour. Il faut l'amour de Christ, hein, les uns pour les autres. Et alors là, il y a quelque chose qui se passe. C'est là où il y a l'amour qu'alors, eh bien, tout se construit avec harmonie. Chacun est à sa place. Il y a un respect mutuel. Il y a une soumission partagée. Chacun va user de prévenance réciproque, comme tout à l'heure il a été dit. S'il y a une chute, on va se pardonner mutuellement. Il y a donc une interaction positive les uns envers les autres. Et alors là, ben, l'assemblage, il est sûr, il est solide. Et le résultat, c'est que tous voient que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Parce qu'on se dit, mais comment ils font pour s'aimer, se pardonner, être ensemble, se supporter, se retrouver à chaque fois, de semaine en semaine? C'est ça qui touche. Et si on veut servir et plaire au Seigneur, eh bien, l'amour, c'est la priorité. C'est vraiment la priorité. C'est ce qu'on doit rechercher, désirer, demander, entretenir, développer. 1 Jean 3, verset 11. Pardon, dans la première épître de Jean. 1 Jean 3, verset 11. Ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. 1 Jean 3, verset 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est fort ça, hein? Quiconque aime, pas simplement ceux qu'il aime. Vous savez, aimer ceux que vous aimez, c'est facile. On aime ceux qu'on aime. Mais quiconque aime, aime tout le monde. Il est né de Dieu, il connaît Dieu. Ça vient de Dieu, ça, vous savez. Moi, quand j'étais pas au Seigneur, un jour, je me suis dit, je vais aimer tout le monde. Je vais être bon avec tout le monde, gentil avec tout le monde. Ben, vous savez, ça va très vite. Hein, et à un moment, on se dit, mais en fait, t'es hypocrite, quoi. Tu fais semblant que tu l'aimes et tu l'aimes pas. Alors, tu fais croire que tu l'aimes et tu l'aimes pas. Ça, c'est la réalité dans le monde. Hein. Sans Christ et sans Dieu, c'est carrément utopique. Hein. Aimer tout le monde, impossible. On a besoin que Jésus-Christ vienne en nous. Et lui, eh bien, va nous rendre capables d'aimer, de pardonner et d'aimer même des gens qui ne vous aiment pas et que vous détestez normalement. Eh bien, Dieu peut changer même les dispositions de votre cœur et vous permettre de regarder cette personne avec un autre regard. Et d'un seul coup, vous ne voyez pas l'ennemi ou le méchant ou celui qui vient vous embêter, mais vous le voyez avec d'autres yeux, les yeux de Dieu. Et là, vous commencez à éprouver de la compassion et de l'amour sincère, sincère pour cette personne. Ben ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Que Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. On ne peut pas faire abstraction de cette vérité. C'est ici le cœur de l'appel que Dieu nous lance à chacun, c'est l'amour. On sait que Dieu a fait le premier pas. Dieu nous a aimés. Il nous a donné son Fils. Il a envoyé, lui qui était innocent, qui n'avait rien fait, qui était pur, qui était parfait. Il a été frappé à notre place, à votre place, chacun individuellement, pour nos péchés. Quand il est mort sur la croix, c'était pour mes péchés, pour vos péchés. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Si Dieu nous a ainsi aimés, si vous l'avez reçu, hein, parce qu'il ne s'agit pas, ah ben, ok, c'est bien, Jésus-Christ est mort pour moi. Mais il est mort pour moi, je veux croire en lui, je lui demande pardon pour mes péchés. Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, lave-moi, change ma vie, je te donne mon cœur. Ça y est, on se convertit à Jésus-Christ, on devient un chrétien. Alors après, on peut dire, puisque Dieu m'a tant aimé et j'ai reçu son amour et son pardon, alors je dois aimer, aimer les uns et les autres. Par lui, on peut aimer, aimer de l'amour qui vient de Dieu, parce qu'il vient habiter dans notre cœur. C'est facile de juger et de haïr, ça c'est super facile. Mais aimer et pardonner, eh bien ça c'est par lui, par sa force en nous. Il est dit que l'amour de Dieu, c'est un autre verset, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc on reçoit l'amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si on a cru, si on s'est repenti, si on le reçoit, le Saint-Esprit entre dans notre vie. Et là, eh bien, l'amour est répandu dans notre cœur. Ça peut se manifester, s'exprimer les uns envers les autres. Et c'est même pas qu'on se force à aimer. C'est parce que on s'offre à Jésus-Christ et on vit pour lui. Il a la première place et on veut, voilà, on entretient sa relation avec lui. On garde les yeux fixés sur sa personne et on dit, Seigneur, je veux vivre pour toi, vis en moi, je veux mourir à moi-même, vis en moi. Et hop, l'amour nous est donné. Hein, l'amour, c'est le fruit, une des parties du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour, hop, il vient, il naît, il déborde. Et on peut s'aimer les uns les autres. Dieu est amour. Et il dit, c'est ainsi que nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. On va voir un moment.